Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous. Alors voici la 11e émission consacrée aux femmes artistes, créatrices au cours du temps. Je vous fais remarquer que nous abordons encore le 19e siècle et c'est la 5e émission consacrée à cette époque, tout simplement parce qu'après les peintres, les femmes de lettres, les musiciennes, je n'ai pas encore parlé des sculpteurs ou des sculptrices, si vous préférez. Alors où en sont-elles, du moins dans nos sociétés occidentales, où il est difficile d'admettre qu'une activité physique salissante puisse être compatible avec l'image attendue de la femme, délicate, jolie, voire précieuse, agrémentée de broderies, de fanfreluches, propre à souligner leur délicate complexion, dont le reflet extérieur renverrait à une nature fragile à tout point de vue et superficielle également, selon certains points de vue masculins. Ce qui peut être le cas pour certaines, mais là n'est pas rentré dans la polémique. Cependant, et malgré les images stéréotypées de la féminité à soumettre aux conventions sociales, il est un fait que l'époque ne peut nier, c'est que le nombre des femmes sculpteurs augmente. Alors pourquoi ? Eh bien peut-être qu'un vent de liberté souffle un peu plus fort dans les sociétés occidentales du XIXe siècle, et ce, malgré de nouveaux asservissements, et peut-être aussi à cause d'eux. En tout cas, les femmes revendiquent de plus en plus le droit d'être ce qu'elles sont, c'est-à-dire des êtres humains à part entière, et de ce fait, elles ont des envies à exprimer et des vocations à réaliser. Alors j'espère que vous n'en doutez pas. Alors évidemment, nous pensons tous ici en France à Camille Claudel, qui en plus d'être sculptrice de talent, était la muse et l'amante du célèbre sculpteur Auguste Rodin. Alors ce caractère velléitaire exigeant n'a jamais supporté de vivre en sourdine, ni même de se voir mise à l'index par l'homme avec lequel elle a communié corps et âme, avec tant de passion, aussi bien en art qu'en amour. Alors elle a certainement tout sacrifié à son art et je pense que l'art est exigeant, mais en ce qui concerne la sculpture, c'est une discipline vorace en énergie si on s'y adonne à fond et ça peut aller jusqu'à sacrifier vie familiale ou maritale. Apparemment c'est ce qui s'est passé pour Camille Claudel qui a peut-être espéré qu'avec Rodin tous les aspects de son existence seraient nourris et que la femme comme l'artiste pourrait être comblée. Enfin, le problème, peut-être, c'est que Rodin est parti en emportant ses espérances, ainsi qu'une partie de sa jeunesse et de sa beauté, déjà négligée au profit de sa vie artistique, et sont restées pour elle les privations dues aux exigences de son art, supporter le froid, peut-être la faim, l'hostilité de sa mère, l'absence du père, son seul vrai soutien en ce bas monde, l'éloignement d'un frère plus occupé à rayonner qu'à tirer sa sœur de l'ombre, et le silence contrit d'un Rodin douloureusement, enfin j'ai tendance à le penser, tiraillé entre deux femmes et les affres de son art. Alors je pense que la posture de Rodin n'a pas été facile, les fesses entre deux chaises, voire plusieurs, si je peux m'exprimer ainsi. À moins de se comporter en équilibriste, il fallait bien qu'il fasse des choix. Alors essayons de le comprendre et pour tenter d'expliquer son comportement vis-à-vis de Camille, nous pouvons penser qu'il était également tenu par un engagement moral vis-à-vis de Rose Beret, sa compagne de toujours et mère de son fils, ne l'oublions pas, qui sans lui n'aurait peut-être pu, comme beaucoup de femmes vieillissantes et dépendantes, subvenir à ses besoins. Sans compter qu'elle assumait les fonctions du ménage, propice à offrir à la fois confort domestique et libération à un Rodin occupé à se consacrer pleinement à son art et accessoirement à ses maîtresses, vis-à-vis desquelles il semblerait que Rose Beret se soit fait une raison. Et peut-être a-t-il également essayé d'éviter l'intransigeance sociale qui s'abat d'autant plus vigoureusement sur des personnalités connues et surtout si elles sortent des sentiers battus. Alors il faut dire que Rodin, par la force de son travail, a réussi à conquérir reconnaissance et renommée sociale et qu'il dépendait pour vivre des commandes que la dite société dans son ensemble voulait bien lui passer. Alors ceci dit, je rappelle quand même, d'après ce que j'ai lu et écouté de sources multiples, que Rodin s'arrangeait pour envoyer des commanditaires chez Camille, régler ses dépenses derrière son dos. Et ce sont quand même des faits apportés à son crédit, quelles que soient ses raisons pour le faire. Mais évidemment, Camille vieillissante et solitaire, témoin impuissant d'un passé qui s'enfuit en entraînant avec lui espoir de renouveau futur, entre-temps a perdu pied. Et en tout cas, ce fut une bonne raison pour ses proches, sa famille. Déroutée et embarrassée par ce personnage hors norme qui commence à dérailler, de la placer dans une institution après le décès de son père, de préférence, où ses plaintes et appels au secours resteront lettre morte pendant 30 ans, et ce, jusqu'à sa mort. Alors, tout le monde connaît plus ou moins l'histoire, suffisamment tragique pour que l'on sorte cet artiste de l'ombre, contrairement à d'autres sans doute talentueuses, mais à la destinée plus linéaire et conventionnelle. Quoi qu'il en soit, bien que vivante, du moins charnellement, elle ne sculptera plus, ne dérangera plus personne, à part ses quelques plaintes ou SOS, auxquelles il suffira de ne pas répondre, ou tout au plus, si on veut se garantir un semblant de paix, lui opposera-t-on quelques répliques moralisantes ou lénifiantes, l'affaire étant réglée une bonne fois pour toutes. Alors Isabelle Adjani, remarquable comédienne, sensible et inspirée, l'a magistralement incarnée dans un film simplement intitulé Camille Claudel, une réalisation de Bruno Nuiten de 1988, Rodin étant interprété par Gérard Depardieu. Alors d'autres vivent une destinée moins dramatique, mais des hauts et des bas quand même, car la vie d'artiste, comme bien d'autres d'ailleurs, n'est pas vraiment une sinécure lorsque l'on s'y adonne à fond, avec ses propres forces, quoi que certains peuvent en penser. Alors une autre sculptrice, Félicie de Fauveau, est née tout au début du 19e siècle en 1801. Elle est née en Italie, d'une famille de financiers par le père, ce qui n'empêcha pas la famille de rentrer ruinée en France en 1814, alors qu'elle était encore adolescente. Et c'est à ce moment qu'elle choisit une carrière artistique et commence à peindre dans l'atelier du peintre-graveur Louis Hersant. Puis, elle s'oriente vers la sculpture en autodidacte. Alors le Moyen-Âge l'inspire et c'est en 1827 qu'elle expose deux bas-reliefs inspirés par l'écrivain écossais Walter Scott, spécialiste des romans historiques. Alors elle est remarquée et félicitée par deux autres écrivains et pas des moindres puisqu'il s'agit d'Alexandre Dumas et de Stendhal. Alors cependant, comme elle est royaliste et qu'elle prend activement position en politique contre la monarchie de Juillet, elle n'hésite pas, faisant abstraction de sa féminité, à prendre les armes. Et c'est son humanité pétrie d'un idéalisme chevaleresque qu'elle affirme en partant au combat, ce qui en fait une personnalité contrastée, d'après ce que j'ai lu, dont la langue pouvait être plutôt acérée, comme celle d'une épée, lorsqu'il s'agissait de défendre des convictions. Et elle me fait penser d'ailleurs à Onorata Rodiana, une des peintres italiennes du XVe siècle que je vous ai présentée lors des émissions précédentes, qui était un personnage haut en couleur, si vous vous souvenez, et s'était engagée dans l'armée pour défendre son pays. Alors, suite à tous ces événements, Félicie sera jetée en prison et obligée de partir en exil, d'abord à Bruxelles, puis à Florence en Italie, où elle restera quelques décennies. Et c'est en Italie qu'elle s'adonnera pleinement à son art. Alors il est vrai que dans sa sculpture, on remarque bien l'influence du Moyen-Âge, de la Renaissance et aussi son penchant pour des valeurs chevaleresques. Et il suffit pour s'en convaincre de regarder, ne serait-ce que le buste funéraire d'un enfant, réalisé en 1833, ou la maquette pour un monument à Clément Cisor, remis à la ville de Toulouse, mais qui ne fut jamais réalisé en monumental, ou bien sa fameuse lampe de Saint-Michel qui, je le crois, se trouve au Louvre à Paris. Et elle décédera relativement âgée, à 85 ans, après une belle carrière et une œuvre plutôt importante grâce à laquelle elle a pu vivre. Alors j'ajoute qu'elle est restée célibataire, est-ce son choix? Ou bien est-ce que les prétendants avaient peur de finir embrochés? J'en sais rien. À moins qu'il n'ait été rebuté, leur orgueil de mâle bien trop piqué au vif par la langue acérée de la dame. Il n'y a qu'elle qui pourrait le dire. En tout cas, il est certain qu'elle aura consacré sa vie et ses idées à son travail. Alors à croire aussi que les sculptrices apparaissent de tous les bords, puisque à l'opposé, l'une d'elles, Marie d'Orléans, née en 1813, de son nom complet Marie-Christine Caroline Adélaïde Françoise Léopoldine d'Orléans, n'est autre que la fille de Louis-Philippe et de Marie-Amélie de Bourbon, roi des Français entre 1830 et 1848. C'est donc une princesse qui reste soumise quand même à la stratégie politique pour régler ses mariages potentiels. Et elle finira par épouser, par défaut, le duc Alexandre de Fürstenberg, à qui elle donnera un fils pour finalement mourir à 25 ans de la tuberculose. Elle aura quand même eu le temps de réaliser quelques sculptures, plutôt romantiques, d'inspiration religieuse et historique, ainsi que des œuvres dessinées. Alors, c'est un rapide passage sur cette terre, pour cette princesse sculptrice ou cette sculptrice princesse, et encore un destin d'artiste femme de plus parmi tous ceux que je vais aborder maintenant. Alors, mais auparavant, nous allons faire une pause musicale et laisser la place à une compositrice du 19e siècle, dont le nom est bien connu grâce au mari, car cette dame n'est autre que l'épouse du compositeur allemand Robert Schumann. Alors, ce que nos contemporains et vous peut-être savez moins, c'est que Clara Schumann, de son nom de jeune fille Clara Wieck, était elle-même compositrice. Alors elle était issue d'une famille de musiciens et très jeune, elle manifesta des dispositions certaines pour la musique. Et son père, Friedrich Wieck, professeur de piano, la forma à cet instrument et Clara devint vite une pianiste d'excellence. Et je dis vite car elle était considérée comme une enfant prodige. Et en effet, elle donna ses premiers concerts à l'âge de 9 ans et publia ses premières compositions, 4 polonaises, à l'âge de 10 ans. Et ensuite, elle ne cessa de se produire et de composer. Alors, elle rencontra son futur mari chez son père, qui lui donnait des cours. L'amour naquit entre ces deux êtres, à la grande consternation du père, qui, conscient du talent et de la carrière prometteuse de sa fille, refusa qu'elle épouse ce musicien désargenté. Mais l'amour fut le plus fort, et bravant l'autorité du père, ils se marièrent. Et j'allais ajouter, comme dans les contes de fées, qu'ils eurent beaucoup d'enfants, et c'est en effet le cas, puisque 8 enfants naquirent de leur union. Et ce qui est plus dommageable, c'est que l'avenir donna raison au père, car la carrière de Clara fut mise en sourdine au profit de celle de Robert. Alors au début du mariage, Robert, même s'il émettait le désir que son épouse ralentisse les tournées pour se consacrer aux besoins du ménage, mais il fut bien obligé d'admettre que c'était le travail de sa femme qui faisait bouillir la marmite. Alors il faut souligner également la fragilité psychique de Robert Schumann. Et en effet, celui-ci commença à souffrir d'angoisse et ensuite de dépression, si bien que le poste qu'il réussit à occuper en tant que chef d'orchestre de la ville de Düsseldorf lui fut retiré parce qu'il ne pouvait plus assumer. Alors Clara restera près de lui à le défendre, à promouvoir sa musique dans ses concerts, à assumer son rôle de mère au foyer pour les 7 enfants restants, jusqu'au moment où Robert fera une tentative de suicide et là il sera interné et il se laissera mourir en ne s'alimentant plus du tout. Tout ça c'est bien tragique. Alors Clara évidemment sera veuve à 37 ans avec 7 enfants sur les bras dont un petit de 2 ans. Elle poursuivra ses tournées, continuera à défendre la mémoire et la musique de son mari. Elle-même cessera de composer et finira sa carrière comme professeur de piano pour décéder à l'âge de 76 ans. Et c'est avec plaisir que je vous propose maintenant la musique de cette dame qui nous a donné à apprécier une existence où se sont mêlés avec intensité amour de la musique et amour marital et familial. Et vous allez écouter maintenant la romance numéro 1, opus 11 de Clara Schumann. Après cette belle musique romantique à souhait, ben revenons à nos sculptrices hein, qui, elles, donnent forme à des matériaux plus rudes, mais aptes pour la plupart, une fois sortis de leurs mains, à déclencher chez nous de belles émotions romantiques. Alors, lors de mes recherches, j'ai rencontré une Léonie à Lévis, née Rodriguez Henriquez, fille d'un banquier bordelais, qui se consacrera vraiment à la sculpture une fois veuve du compositeur Jacques Fromental à Lévis. Et elle étudiera avec le sculpteur Frémier, réalisera notamment des bustes, entre autres, celui de son musicien de mari, et elle exposera surtout au Salon des Indépendants de Paris. Également une Marie-Louise Lefebvre-Demier, née en 1820, qui épousera un écrivain, poète, et pourra s'offrir le loisir de pratiquer la sculpture comme un passe-temps. Alors elle obtiendra quelques récompenses dans des salons et finira par être remarquée et appréciée par la cour impériale, où elle recevra des commandes de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie. Et elle réalisera pas mal de bustes, hein, souvent grâce à des commandes, et verra sa sculpture de nymphe, intitulée Glycéra, s'intégrer dans la cour carrée du Louvre de Paris. Et en outre ses activités de sculptrice, elle collaborera comme journaliste à plusieurs journaux sous le pseudonyme de Jean de Sologne. Alors une autre de ses contemporaines, une Française nommée Hélène Berthaud, née Pilate et mariée à François-Augustin à Léliot, avec lequel elle ne restera pas longtemps, lui préférant le nom de Berthaud, celui de son nouvel ami qu'elle finira quand même par épouser. Alors celle-ci a pris des cours de sculpture assez tôt auprès du compagnon de sa mère, le sculpteur Pierre Hébert, et s'est perfectionnée avec un autre sculpteur, Auguste Dumont. Alors c'était une contestataire hein, qui ne pouvait accepter d'être minimisée et muselée sous le prétexte qu'elle était une femme, si bien qu'elle décida d'ouvrir des ateliers de dessin, de modelage et de sculpture en faveur des femmes, et elle fonda dans la foulée en 1881 l'Union des femmes peintres et sculpteurs, l'UFPS, pour que, grâce à l'entraide, les femmes puissent acquérir une véritable reconnaissance et statut d'artiste. Et c'est grâce à cette association et à l'acharnement d'Hélène Berthaud que les femmes pourront être admises à l'École des Beaux-Arts et participer à des concours, notamment celui prestigieux du Grand Prix de Rome. Alors elle a aussi bataillé pour que les cours soient également gratuits pour les femmes comme il l'était pour les hommes. Alors pour son travail de sculpteur, elle recevra une reconnaissance, obtiendra des récompenses, laissera de nombreux témoignages de son talent dans divers lieux, des parcs, des églises, des monuments, et entre autres au petit palais de Paris sous forme d'une jeune fille, sculpture intitulée « Psyché sous l'emprise du mystère ». Alors malgré sa présence affirmée en tant que sculpteur dans le paysage artistique de son époque, cela ne l'empêchera pas de disparaître, quasiment oublié. Alors encore une Française nommée Marie-Noémie Cadio, mais qui préférera le pseudonyme de Claude Vignon, celle-ci est sculptrice mais également écrivaine. Alors, sa vie fut plutôt mouvementée à ses débuts puisqu'elle s'enfuit du pensionnat avec un abbé défroqué et qui le fut, d'après ce que j'ai lu, à cause d'une autre avant elle. Et ce monsieur, nommé Alphonse-Louis Constant, eut également des débuts dans la vie compliqués, à tort ou à raison, ce qui ne s'est pas tellement arrangé au cours du temps. Et il prit par la suite le pseudonyme d'Eliphas Lévy pour des activités plus ou moins ésotériques. Enfin, quoi qu'il en soit, Marie-Noémie dit Claude Vignon, amoureuse, s'enfuit pour le rejoindre. Et comme elle était mineure, hein, puisqu'elle n'avait que 18 ans, la majorité étant à cette époque plus tard, ben, ses parents ont exigé le mariage, qui se fera civilement, mais sans dot et avec des débuts difficiles. Bon, apparemment, cela ne l'empêchera pas de faire sa vie, hein, comme on le dit si bien. Elle écrit avec des prises de position plutôt féministes, des convictions politiques. C'est une militante. Elle sculpte, produit une œuvre assez conséquente, remarquable d'ailleurs, plutôt classique, avec des bustes de personnages célèbres, stèles funéraires, éléments de monuments comme des bas ou hauts reliefs, tant d'œuvres qui feront notamment partie des collections d'État. Entre-temps, elle perd son enfant, se sépare de son mari, s'enfuit avec un marquis, le marquis de Montferrier, pour se remarier avec un banquier, journaliste et homme politique, Maurice Rouvier. Bon, apparemment, ce n'est pas une femme de tout repos qui finit néanmoins son existence relativement tôt, à l'âge de 59 ans. Alors, une autre Française, Marie Cazin, née en 1844, figure également parmi les sculptrices. Alors, née Guillet, elle devient Cazin par son mariage avec son professeur, le peintre-sculpteur Jean-Charles Cazin, de qui elle aura un fils, Michel, qui deviendra graveur. Alors, elle commence d'abord par exposer en tant que peintre, surtout des paysages, puis ensuite en tant que sculptrice vers l'âge de 38 ans. Et ce sera une sculptrice productive qui accédera à une certaine notoriété et à la reconnaissance de son statut d'artiste en devenant notamment sociétaire de la Société nationale des beaux-arts. Et un bronze de son buste nommé David sera acquis par le musée du Luxembourg à Paris. Son œuvre la plus connue et réputée, qui s'intitule « Les jeunes filles », sera achetée par l'État. Alors, en dehors de cela, elle créera de nombreuses sculptures monumentales, souvent empreintes de mélancolie, avec des thèmes récurrents en lien avec la mort, la brièveté de l'existence, et érigera un mausolée sculpté en l'honneur de son mari. Alors, il semblerait que ses dernières années de vie aient été plutôt pathétiques, dans le sens où elle aurait perdu son fils dans l'explosion d'un torpilleur pendant la guerre 14-18, donc au XXe siècle, et elle y aurait également perdu la vue. Alors, il est vrai que je cite beaucoup de sculptrices françaises, et pour le moment, ce sont des sculptrices nées dans la première moitié du XIXe siècle. Alors, j'ai rencontré une Suisse, Adèle Daffry, née en 1836, duchesse de Castiglione-Colonna par mariage à 20 ans avec un riche héritier italien, Carlos Colonna. Elle-même était descendante d'une prestigieuse famille fribourgeoise. Elle recevra dans sa jeunesse, comme bien des jeunes filles de son milieu, une bonne éducation, notamment artistique, en dessin, en aquarelle, et s'orientera vers la sculpture pour s'initier auprès du sculpteur suisse Maximilien Imhoff. Et c'est la pratique artistique qui la consolera de son veuvage 8 mois après son mariage. Elle reprendra des cours de sculpture avec le sculpteur Auguste Klesinger, se perfectionnera en dessin avec le sculpteur animalier Antoine-Louis Barry. Et d'après ce que j'ai pu comprendre de son cursus, c'est quelqu'un qui sans cesse essayait de se perfectionner malgré les interdits, les obstacles rencontrés par les femmes lorsqu'elles désiraient apprendre. Alors, son séjour en Italie lui aura également ouvert des perspectives artistiques et à ce qui paraît, elle admirait beaucoup le sculpteur Michel-Ange. Bon, ça, je le comprends très bien. Et s'est établie à Paris avec une rente insuffisante qu'elle vendra ses œuvres en empruntant un pseudonyme masculin, Marcello. Et c'est sous ce pseudonyme qu'elle exposera pour la première fois au Salon de Paris à l'âge de 27 ans. Et ce, pour échapper à tous les préjugés en vigueur à l'époque à l'égard des femmes. Alors, entre-temps, elle se liera d'amitié avec le couple impérial Napoléon III et Eugénie, dont elle réalisera un portrait. Alors, j'ai l'impression que ce couple royal apprécie bien les femmes artistes. Alors, c'est une artiste qui sera reconnue. Elle exécutera nombre de bustes de personnalités. Son intérêt pour l'orientalisme influencera également son art, comme bon nombre d'artistes de son époque d'ailleurs, ce qui ne l'empêchera pas de se nourrir d'autres influences et surtout de ce qu'elle aura su capter lors de ses voyages en Europe, où elle rencontrera des artistes qui deviendront des amis. Sa sculpture, la fameuse Pitti, reconnue comme son chef-d'œuvre, tant la facture est originale pour l'époque et notamment dans la gestuelle, sera acquise par l'Opéra Garnier de Paris. Or, j'ajoute que, entre autres la sculpture, le dessin, la peinture, elle était dotée de multiples talents et notamment en écriture et en musique. Bon, néanmoins, elle abandonnera la sculpture, devenue trop éprouvante les dernières années de son existence, pour la remplacer par la peinture. Et c'est épuisée par la maladie, une maladie des voies respiratoires, qu'elle s'éteindra prématurément à l'âge de 43 ans. Alors j'ai cherché d'autres sculptrices étrangères néanmoins dans la première moitié du 19e siècle et là j'ai rencontré des Américaines plutôt nombreuses car il semblerait que la sculpture ait bénéficié de l'engouement des Américains. Enfin quoi qu'il en soit, les femmes ne sont pas en reste et la plupart se sont retrouvées en Italie, à Rome, à la fois pour étudier et pour travailler. Mais je vois que nous devrons aborder ce sujet la prochaine émission car nous arrivons à la fin de celle-ci et qu'il est l'heure de nous quitter. Je vous remercie de votre attention. C'était Christine Darboux pour vous présenter dans le cadre de La Voix des Arts les femmes artistes ou artistes femmes au cours du temps. La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux.